Bonjour. Voici la nuit, la longue nuit où l'on chemine, et rien n'existe hormis ce lieu d'espoirs en ruine, en s'arrêtant dans nos maisons, Dieu préparé comme un buisson, la terre où tomberait le feu. La terre où tomberait le feu. La terre où tomberait le feu. Le feu, je l'ai dit, c'est la puissance de l'esprit. Mais c'est bien d'autres choses aussi. Soyons crus et réalistes. Tous les feux qui tombent sur la terre ne sont pas la joie de l'esprit. Pimenter les jeunes d'un village dans les armées de Daesh et refuser d'enseigner à des collégiens une idéologie assassine. Parmi tant d'autres hommes et femmes de toutes langues, nations et religions, ces trois-là sont des martyrs associés au sacrifice et à la gloire du Christ. Mais l'Apocalypse, évidemment, nous parle de résurrection. Je verrai Dieu qui n'en finit pas de venir à notre rencontre et qui nous tire patiemment, fermement vers un monde nouveau. Vieux que nous sommes, nous nous accrochons à des figures du passé qui nous sécurisent et nous freinons l'élan de l'esprit. Vieux que nous sommes, nous prétendons concevoir et bâtir de nos mains un monde neuf ou une église rajeunie. Et nous brusquons l'esprit, qui seul est. En Genèse, nous écoutions le cri de naissance de l'humanité, le cri de joie originel par lequel l'homme et la femme entrent dans la vie. Eh bien, voici les derniers mots articulés dans la Bible, et par un couple à nouveau. Qui signifie l'Église dans l'unanimité de l'Esprit. Je lis. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Celui qui entend. Qu'ils disent « Viens !»
La terre où le plantait la mort. Voici la nuit, l'immense nuit qui s'illumine, et rien n'existe hormis Jésus où tout culmine. En s'arrachant à nos tombeaux, Dieu conduisait au jour nouveau la terre où
la nuit où l'on chemine. Une fois encore, voici la nuit. Au début du poème, elle fut celle de la profondeur des temps obscurs, l'immense nuit des origines. Et nous ouvrions la Genèse pour voir poindre la lumière du premier jour. Elle fut ensuite la nuit joyeuse et douce de Bethléem, l'heureuse nuit de Palestine. Nous goûtions là au bonheur des germinations silencieuses dans l'attente paisible de l'aube. Puis il y eut les deux nuits de la Passion et de la Résurrection, l'immense nuit qui s'illumine, et nous entendions éclater le nom de Jésus, le nom qui surpasse tous les noms. Mais maintenant, après la résurrection, faut-il encore qu'il y ait la nuit ? Quand s'est levé à Pâques le jour définitif, le soleil victorieux que les premiers chrétiens dessinaient au mur des catacombes en figure d'Apollon ? Soleil victorieux, en effet, mais dessiné au mur des catacombes pour orner des tombes. La nuit n'est pas finie. Il faut que cette lumière vienne traverser nos nuits. Le poète en a décidé ainsi, la tonalité de la dernière strophe sera grave, sinon douloureuse. Au centre est planté le mot « ruine ». Rien n'existe hormis ce lieu d'espoirs en ruine. Le lieu dont il est question, c'est celui que nous habitons aujourd'hui, à savoir un chemin. Nous serons des marcheurs. Cela, pourquoi pas, des pèlerins comme ceux d'Emmaüs, peut-être, ou en quête du ressuscité qui nous précède en Galilée. L'ange de la résurrection annonçait cela. Mais voilà, il semble que le pas sera lourd parfois, que la nuit sera longue souvent, et la route encombrée de gravats. Rude façon de conclure, nous aurions préféré un happy end. Jamais nous n'oublierons le mot de Jésus « Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et chrétiens, nous savons dire « Réjouissez-vous, gaudete !» On donne ce nom-là au troisième dimanche de l'Avent. Il n'empêche. De lieu en lieu et d'instant en instant, le chemin reste éprouvant. Sur le corps du ressuscité demeure la marque des clous. D'ailleurs, le dernier mot n'est pas pour les ruines et les gravats. Il est dans la promesse d'un feu. Feu de Pentecôte, évidemment. Par une visite de maison en maison, comme Dieu visitant le peuple d'Israël avant la sortie d'Égypte, l'Esprit s'annonce. La terre que nous habitons est promise à devenir buisson ardent, chaude et lumineuse, brûlée d'une vie généreuse qui se reçoit dans la mesure même où elle se donne. L'Esprit est brûlant. Et malgré les épreuves sur le chemin, la terre n'a plus un goût de cendre. La vie de Pentecôte s'annonce passionnante. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Dans la joie du Dieu vivant ? Ou dans un monde d'espoirs en ruine ? Nous sommes dans l'entre-deux paradoxal du temps chrétien. Nous sommes des sentinelles du matin. Sentinelles du matin. La formule qui fait référence au prophète Isaïe a été popularisée par le pape Jean-Paul II au JMJ de l'an 2000 à Rome. Aux 2 millions de jeunes rassemblés à Tor Vergata, il avait dit « Je vois en vous les sentinelles du matin. » Et il les encourageait à être des instruments de paix pour le siècle qui s'ouvrait. Sentinelles du matin, l'image s'applique à nous tous les croyants. Elle signifie que nous sommes à l'affût du bonheur qui vient. Jésus nous a donné tout ce qu'il faut de paraboles pour nous éduquer à cela. Veillez donc, car vous ne savez quand le maître de la maison viendra. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à leur retour des noces. Vous vous rappelez ces petits contes imaginés par Jésus ? Ils nous instruisent peu sur ce qu'il faut attendre. Mais il nous indique une certaine manière d'attendre, et c'est cela, vivre. Il s'agit d'abord de consentir à un non-savoir. Lorsque Abraham s'est mis en route, lui qui fut le premier marcheur, il ne savait pas d'emblée où se rendre. Quitte ton pays. Pars vers le pays que je te montrerai. Abraham marche sans savoir. Et un jour, Dieu lui dit, « Lève les yeux et regarde, c'est là. » Le lieu s'appelle Mambré, Abraham peut s'y installer, il recevra bientôt la visite des trois anges qui lui promettront un fils. Ici commence la fécondité. Première leçon donc, il n'y aura pas de fécondité. Il y aura peut-être du succès, de la réussite, mais pas de la fécondité. Nous n'accueillerons ni ne donnerons la vie si cela ne procède d'une confiance première. La vie est un mystère. Dieu, source de vie, viendra à son heure et il nous invite pour l'instant à marcher. Question. Un temps viendra-t-il où nous pourrons nous installer comme Abraham à Mambré? Bien sûr, et cela nous est arrivé plus d'une fois sans doute. Dieu nous a dit « c'est là ». Et par tel ou tel choix de vie, le mariage, la vie religieuse, tel engagement professionnel ou associatif, nous pouvions nous fixer. Il y a des pierres blanches dans notre existence. Mais, pourvu que nous nous comportions alors comme fit Abraham, il a planté sa tente, mais il l'a laissée grande, ouverte aux visiteurs, à la façon des nomades. Car en vérité, de lieu en lieu et jusqu'au terme de mon histoire, Dieu n'aura jamais fini de venir me visiter. Voilà la vie chrétienne. Elle est une forme d'attention aux événements, une qualité de présence au monde qui nous dispose à accueillir sans cesse Dieu qui vient. Quand, au soir de sa passion, Jésus dit à ses disciples « Je reviendrai ». Quand il dit « Nous viendrons, le Père et moi ». Ou encore « L'Esprit viendra. » Parle-t-il de la fin des temps? Il parle d'abord et tout autant des mille façons qui nous attendent d'être visités par Dieu. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Nous pourrions dire que tout l'Évangile est une école d'attention au surgissement de Dieu. À force de fréquenter Jésus, nous apprendrons à accueillir les événements et les rencontres comme des sollicitations de Dieu. Ce lépreux qu'il faut guérir, ce Nicodème qu'il faut accueillir jusqu'en pleine nuit, cette Samaritaine qui me rejoint au bord du puits, cette pauvre veuve qui fait mon admiration et me donne une leçon de vie. Cette foule affamée de paroles et de pain. Autant d'irruptions du Dieu qui vient. Jusqu'au dernier jour, et sans doute toujours plus loin, poussé par la vie qui veut croître sans cesse, nous n'en finirons pas d'accueillir Dieu qui vient. Qui sait si la rencontre finale, l'ultime venue de Dieu au terme du chemin, ne sera pas la reconnaissance de toutes les visites dont nous aurons été gratifiés au jour le jour. Nous recueillerons tout cela dans la gratitude, tous ces visages croisés, tous ces paysages traversés, dans la gratitude, dans la pénitence aussi. Et dans l'humble offrande du dernier souffle. Arrêtons-nous pour méditer un instant. Ma vie, est-ce que je l'envisage ainsi comme un chemin, comme un long apprentissage par lequel peu à peu j'avance vers la vie, par lequel de rencontre en rencontre, j'apprends la vie. Dieu trace en moi patiemment son chemin. Et jusqu'au terme, de jour en jour, je lui redirai avec confiance les mots de Jésus. Que ton règne vienne. En s'arrêtant dans nos maisons, Dieu préparait comme un buisson la terre où tomberait le feu. De maison en maison, de visite en visite, c'est donc ainsi que procède Dieu. Dieu qui vient. Le temps chrétien est à mettre sous le signe de la visitation. Je retourne un instant à la belle scène d'évangile de dimanche dernier, le dernier dimanche avant Noël. Avez-vous remarqué comment la seule salutation de Marie suffit à faire monter en Élisabeth une joie qui vient du fond des entrailles depuis le tressaillement de l'enfant dans son sein ? Rien qu'une salutation y a suffi. Une certaine qualité de visite provoque l'irruption de l'Esprit. Aussitôt, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Voilà ce que pourrait être la vie chrétienne envisagée comme un avant. De visite en visite, de salutation en salutation, le feu se répand. L'Esprit vient. Il avait pris Marie sous son ombre, et c'est par là que tout commençait. Puis Marie a visité Élisabeth, et l'Esprit vint sur Élisabeth. Le bonheur s'inaugurait avec la foi de Marie, heureuse, celle qui a cru. Et la foi de Marie, sa confiance en Dieu, enclenche par la suite une contagion de joie. Retenons cela. Le feu de l'Esprit a porté Marie, joyeuse et courant par-delà les montagnes, et c'est ainsi que Dieu est venu ce jour-là visiter Élisabeth. Dieu vient, c'est sûr, mais ce sera par nos élans, par nos empressements de charité, par le témoignage de notre joie intime. Pour dire leur propre projet religieux, les jésuites d'aujourd'hui ont choisi cette image, un feu qui en engendre d'autres. C'est cela la vie. Le récit évangélique me suggère encore ceci, c'est cela la vie, mais seuls le savent vraiment sans doute les plus petits. Cette joie contagieuse de l'Esprit, Dieu qui nous visite de maison en maison, c'est l'affaire de Marie, humble servante du Seigneur. C'est l'affaire d'Élisabeth, si longtemps humiliée de ne pas trouver sa fécondité. Et c'est l'affaire surtout de deux enfants, les plus petits qui soient, deux enfants qui n'ont pas eu encore le temps de naître. C'est dire combien profond Dieu vient réjouir notre humanité, combien la grâce de sa visite veut toucher à la racine de nous-mêmes. C'est dire aussi combien est enfouie en tout homme l'aspiration au salut et pressée de s'exprimer dès que se présentera une heureuse visitation. C'est dire enfin, et Jésus l'expliquait souvent, que la joie de Dieu pour venir jusqu'à nous suppose que nous redevenions comme des enfants désireux de naître. Méditons un instant cela. Les jours qui viennent seront propices aux visites mutuelles et aux salutations fraternelles. Quelles visitations m'attendent ? Aurais-je la grâce d'aller saluer des proches, de courir vers des amis, de m'associer à la joie d'autrui ? D'ici Noël, ou aussi longtemps que durera la crèche, n'est-il pas temps d'y convoquer un à un 1000 visages amis ? Mes proches, d'autres moins proches qui sont mes fréquentations quotidiennes ? Et pourquoi pas ceux et celles que je croise en passant ? Comment pourrais-je les bénir, les présenter au Sauveur qui vient, être pour eux un feu qui en engendre d'autres.
La terre où tomberait le feu, la terre où tomberait le feu.
Le feu, je l'ai dit, c'est la puissance de l'esprit. Mais c'est bien d'autres choses aussi. Soyons crus et réalistes, tous les feux qui tombent sur la terre ne sont pas la joie de l'esprit. Il ne vous a pas échappé que l'année liturgique, chaque année, s'achève sur l'Apocalypse de Saint Jean, avec ces images dites apocalyptiques. Nous avions commencé ces méditations d'avant avec le livre de la Genèse. Il est juste de les terminer avec celui de l'Apocalypse sur lequel se referment les Écritures. Le mot « Apocalypse », vous le savez, signifie « dévoilement », « révélation ». Par un jeu d'images, Jean le visionnaire nous laisse entrevoir le fond des choses, l'ultime fond du temps présent. Il ne nous cache pas les immenses douleurs du temps. La violence de certaines images révèle cruellement la souffrance ordinaire de toutes les victimes d'injustice et de violence. Et nous savons trop bien à quelle réalité quotidienne cela correspond aujourd'hui. Jésus l'a annoncé. Jusqu'à la fin des temps, des chrétiens souffriront persécution. Et ils ne devront pas s'étonner d'être humiliés souvent. Ils seront en cela solidaires de bien d'autres hommes et femmes chercheurs de vérité. À titre symbolique et pour leur faire honneur, je confie à notre prière ces trois musulmans sunnites dont la presse signalait en entrefilet la cruelle mise à mort publique dans le nord de la Syrie. Ils avaient refusé d'enrégimenter les jeunes d'un village dans les armées de Daesh et refusé d'enseigner à des collégiens une idéologie assassine. Parmi tant d'autres hommes et femmes de toutes langues, nations et religions, ces trois-là sont des martyrs associés au sacrifice et à la gloire du Christ. Mais l'Apocalypse, évidemment, nous parle de résurrection et de vie. Quel message clé vais-je y choisir pour accueillir Noël ? Je choisis ce mot magnifique prononcé par Dieu lui-même dans la solennité du chapitre 21. Voici que je fais toute chose nouvelle. Soyons formels. La violence est vaincue. Le personnage principal de l'Apocalypse est l'agneau. Cet agneau de Dieu que nous chantons à la messe, victime innocente, victime victorieuse, qui siège désormais sur le trône. L'agneau que nous mangeons en nourriture pour alimenter en nous la vie du ressuscité. L'Apocalypse, dévoilement des choses, chante comme un leitmotiv la vie de Dieu qui est, qui était et qui vient. La Bible s'achève sur le Dieu vivant qui fait toutes choses nouvelles. Voici la vérité. La victoire du ressuscité, dernier mot de l'incarnation qui se révélait à Noël, a inoculé dans notre monde un ferment d'infinie nouveauté. Comme j'aimerais pouvoir saisir et exprimer cela. Que si nous savions envisager la vie d'une belle façon, envisager les événements selon leur vérité vraie, nous verrions par derrière eux Dieu qui vient, l'œuvre de Dieu qui peu à peu se réalise. Au fil des événements, par-delà le péché du monde et le mien propre, je verrai Dieu qui n'en finit pas de venir à notre rencontre et qui nous tire patiemment, fermement vers un monde nouveau. Vieux que nous sommes, nous nous accrochons à des figures du passé qui nous sécurisent et nous freinons l'élan de l'esprit. Vieux que nous sommes, nous prétendons concevoir et bâtir de nos mains un monde neuf ou une église rajeunie. Et nous brusquons l'Esprit, qui seul est Seigneur et qui donne la vie. Nous sommes vieux, puisque nous n'avons pas cédé le pas à Dieu et compris que toute nouveauté ne viendra jamais que de Lui. La nouveauté du monde aura certes besoin de nos efforts et de nos intelligences, elle aura besoin de nos cœurs et de notre charité. Mais pour autant, elle vient d'ailleurs. La paix, la justice, la vérité, tout cela suppose nos efforts et nos engagements, rien ne se fera sans eux. Mais pourtant, nos efforts et engagements n'en seront jamais la cause, ils ne les produiront pas. Ils doivent plutôt les accueillir. Il en va du monde, de la paix et de la justice dans le monde, comme il en va d'un enfant. On l'accueille. Et l'enfant qui va naître nous emmène Dieu sait où. Tout l'art consiste à lui ouvrir le chemin, à l'accompagner de nos efforts, aussi loin qu'il devra aller, pour donner autant de bien qu'il pourra en donner. Ainsi en va-t-il avec Dieu. Dieu se fait petit enfant. Nous prendrons soin de l'enfant Dieu. Mais lui nous conduira, Dieu sait où. Quand nous croirons être arrivés, avoir enfin trouvé une solution de justice pour le monde, établi enfin un peu de beauté pour le monde, ce ne sera encore qu'un début. La nouveauté sera toujours devant, la vie nous attendra toujours plus loin. La résurrection de Jésus a inoculé dans le monde une semence d'éternité. Le monde n'en finira jamais d'aspirer à une vie plus grande, à un bonheur plus grand, habité qu'il est, d'une puissance d'éternité. L'Apocalypse suggère tout cela. Et savez-vous comment elle s'achève? Sur quels mots se referme le livre? En Genèse, nous écoutions le cri de naissance de l'humanité, le cri de joie originel par lequel l'homme et la femme entrent dans la vie. Eh bien, voici les derniers mots articulés dans la Bible, et par un couple à nouveau, qui signifie l'Église dans l'unanimité de l'Esprit. Je lis. L'Esprit et l'épouse disent « Viens !» Celui qui entend, qu'ils disent « Viens !» Celui qui a soif, qu'il vienne. Et celui qui donne ce témoignage, il s'agit de Jésus, déclare « Oui, je viens sans tarder !» À quoi s'ajoutent enfin les tout derniers mots de la Bible. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je vous invite à chanter avec moi.
Voici la nuit, l'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine, en séparant le sable et l'eau. Dieu préparait comme un berceau la terre où il viendrait au jour, la terre où il viendrait au jour. Voici la nuit, l'heureuse nuit de Palestine, et rien n'existe hormis l'enfant de vie divine. En
de notre chair, Dieu transformait tous nos déserts en terre d'immortel printemps, en terre d'immortel printemps. Voici la nuit, l'immense nuit sur la colline. Et rien n'existe hormis le corps criblé d'épines. En devenant un crucifié, Dieu fécondé comme un verger, la terre où le planter la mort, la terre où le planter la mort. Voici la nuit, l'immense nuit qui s'illumine, et rien n'existe hormis Jésus où tout culmine. En s'arrachant à nos tombeaux, Dieu conduisait au jour nouveau la terre où il était vaincu, la terre où il était vaincu. Voici la nuit, la longue nuit où l'on chemine. Et rien n'existe hormis ce lieu d'espoirs en ruine. En s'arrêtant dans nos maisons, Dieu préparait comme un buisson la terre où tomberait le feu, la terre où tomberait le feu.
Je vous souhaite un bon Noël qui vient.
En votre nom, je veux remercier le Père Miguel Rolin-Gosselin pour ses 4 méditations. Si vous voulez aider, à la sortie, il y a une corbeille. Je vous remercie.